Accent d'Europe, Juliette Garbrandt.
Bonjour. 2021 s'annonce comme une année de tristes records en Méditerranée centrale. Et l'été, il sera difficile. Depuis le début de l'année, depuis janvier, dans ce petit bout de mer qui relie les côtes d'Afrique du Nord à celles de l'Italie, 14 000 migrants ont été refoulés vers la Libye. L'Organisation internationale pour les migrations et le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU continuent en vain à dénoncer une violation de la législation maritime et des droits humains. Les ONG qui portent secours aux embarcations en dérive voient leurs opérations entravées et elles le dénoncent, elles aussi, inlassablement. Un certain nombre d'entre elles se sont d'ailleurs réunies au chantier culturel de Palerme pour évoquer la situation. Les détails avec notre correspondante Cécile Debarge.
C'est sur la terre ferme qu'elles se sont réunies, faute de pouvoir se trouver en mer à bord de leur bateau de sauvetage. 8 ONG qui portent secours aux embarcations de migrants en Méditerranée ont dénoncé des interventions de secours de moins en moins fréquentes de la part des gardes-côtes européens. Chiara est militante pour Watch the Med, Alarm Phone, qui alerte les autorités de la présence d'embarcations en détresse.
Nous avons assisté à un changement notable dans la réponse que nous recevons. À l'époque, quand nous avons commencé en 2014, la réponse était oui, d'accord, on part les secourir. Aujourd'hui, on n'obtient quasiment aucune réponse des gardes-côtes maltais et les gardes-côtes italiens nous disent de contacter la Libye.
Les gardes-côtes libyens jouent un rôle stratégique. Jamais autant de migrants n'ont été interceptés puis ramenés vers des ports libyens, au moins 14 000 depuis le début de l'année. Les bateaux de sauvetage des ONG sont eux presque tous bloqués depuis des mois pour raisons administratives, dénonce Alessandro Lucarello d'Amnesty International Palerme.
En plus d'avoir les gardes-côtes libyens, il fallait qu'il n'y ait plus de témoins en Méditerranée. Et c'est là qu'entre en jeu la criminalisation de la solidarité, qui a pour but de mettre à l'arrêt les bateaux de sauvetage des ONG. Pas seulement pour les empêcher de sauver des vies, mais surtout pour faire de la Méditerranée une mer de silence.
Une mer de silence dans laquelle au moins 696 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'année, selon l'Organisation internationale des migrations. Plus de 19 800 migrants sont eux arrivés en Italie depuis le mois de janvier.
C'est un pays en pleine dérive autoritaire et en pleine crise politique qui prend la présidence tournante de l'Union européenne le 1er juillet, la Slovénie. 30 ans tout juste après son indépendance, bien loin de l'unité enthousiaste qui régnait alors, le pays a opéré sous l'impulsion du Premier ministre Janez Janša un grand virage nationaliste et ultra-conservateur. Les clivages idéologiques se durcissent au sein de la population. Ancien héros de cette indépendance, ancien communiste dissident, Janez Janša est accusé par une partie des Slovènes de trahir les promesses de 1991. Cet admirateur de Donald Trump, surnommé Maréchal Twitto, semble conduire son pays droit dans les pas de Viktor Orban et de ses alliés d'Europe centrale. C'est un reportage signé Simon Rico.
Le 25 juin, la Slovénie a célébré le 30e anniversaire de son indépendance. Mais pour les manifestants qui se rassemblent chaque vendredi dans le centre de Ljubljana depuis plus de 60 semaines, l'important c'est de dénoncer encore une fois l'orbanisation de la Slovénie, une dérive populiste et autoritaire calquée sur celle de l'homme fort de la Hongrie voisine. Barbe de hipster et petite lunette, Janša est l'un des meneurs de la contestation citoyenne.
Nous espérons que les 30 prochaines années seront meilleures que les 30 qui viennent de passer. Bien sûr, nous manifestons contre la dictature que Janez Janša veut installer, mais aussi contre les gouvernements précédents qui n'ont pas vraiment respecté les engagements pris lors de la proclamation de l'indépendance. la mise en œuvre d'un État démocratique, social et écologique, et pas ce néolibéralisme sauvage auquel la Slovénie est confrontée.
République la plus occidentale de l'ex-Yougoslavie, la Slovénie s'était engagée dès le milieu des années 80 dans un processus de démocratisation mené par la société civile à l'opposé du nationalisme autoritaire de la Serbie de Slobodan Milošević. À l'époque, le jeune Janez Janša était l'une des principales figures de cette dissidence libérale qui se battait pour une société plus ouverte avant de virer vers le nationalisme une fois arrivé au pouvoir. Ancien proche de l'actuel Premier ministre devenu un influent lobbyiste, Francis Averl ne cache pas son amertume.
Comme toute personne qui a été engagée dans ce processus romantique de création d'un pays démocratique, forcément je suis déçu. Oui, je suis déçu, mais c'est normal. On avait rêvé de créer une nouvelle Suisse. On a tous rêvé de faire la meilleure, la plus belle, la plus grande démocratie du monde. Tous les révolutionnaires, tous les pionniers de cet État sont déçus, moi y compris. Et le pire, c'est que j'ai perdu toute envie d'intervenir dans le débat politique.
Admirateur de Trump et de Viktor Orban, le Premier ministre slovène, Janez Janša, patriarcal et islamophobe, a profité du Covid-19 pour restreindre les libertés individuelles et multiplier les attaques contre tous ses opposants. Les militants de la société civile et les journalistes ont été ses premières cibles et ces derniers temps, c'est au tour des magistrats et des universitaires. Comme les directeurs de presque toutes les institutions culturelles du pays, Kaja Širok a dû quitter la tête du musée d'histoire contemporaine.
Le gouvernement actuel tente d'imposer un nouveau récit national. Cela passe notamment par l'effacement de tout ce qui a un rapport avec l'ex-Yougoslavie, ses valeurs de solidarité et son héritage multiculturel. Il s'agit donc d'une réécriture de l'histoire pour ne garder qu'une mémoire sélective. À mon sens, cette réinterprétation du passé est non seulement subjective, mais aussi très problématique.
On a longtemps présenté la Slovénie comme le meilleur élève des pays de l'Est intégré à l'Union européenne dans les années 2000, un État stable et en croissance économique. Mais la crise financière de 2008 a amorcé le désenchantement, exacerbé par le passage de plusieurs centaines de milliers d'exilés en 2015 via la route des Balkans. Face au rouleau compresseur illibéral, la gauche radicale du jeune député Luka Mesec s'impose comme la principale force d'opposition.
Le gouvernement actuel, avec à sa tête le Premier ministre Janez Janša, essaie de copier-coller ici le scénario Orban. Mais je tiens à dire qu'il n'a pas encore réussi, loin de là. La Slovénie se bat fermement. Nous avons une opposition unie au Parlement, des citoyens qui protestent dans la rue et aussi des syndicats pour faire front contre cet agenda illibéral en Slovénie. Et je suis sûr que cette dérive sera stoppée dans les prochains mois.
C'est dans ce contexte politique intérieur tendu que la Slovénie va prendre le 1er juillet la présidence de l'Union européenne. Si rien n'a fuité, le durcissement de la politique migratoire devrait être l'une des priorités. Janez Janša pourrait aussi tenter d'utiliser cette tribune pour pousser au remodelage des frontières des Balkans. Il serait lui-même l'inspirateur d'une note informelle qui a suscité de vives inquiétudes au printemps. Ce document officieux prévoit d'achever la désintégration yougoslave en réunifiant le Kosovo à l'Albanie et en partageant la Bosnie-Herzégovine entre la Croatie et la Serbie pour ne laisser qu'un micro-État aux Bosniaques musulmans. Une politique qui a le soutien tacite de Budapest et du groupe de Visegrad.
Faire du neuf avec du vieux, c'est dans l'air du temps. En France, le nombre de recycleries a explosé ces 20 dernières années. Une recyclerie, c'est d'abord un endroit où tout un chacun peut déposer des objets qui ne servent plus pour qu'ils y trouvent une deuxième vie, une fois rénovés et revendus. C'est également souvent un lieu de formation et d'échange. On en compte aujourd'hui plus de 6500 dans l'Hexagone, en ville comme à la campagne. Bonjour Carlotta Morteo.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, où vous vous trouvez, pas une semaine ne passe sans que la presse locale n'annonce une nouvelle ouverture de recyclerie.
Oui, on assiste à un boom extraordinaire de ces magasins aux allures de bazar, plein de bric-à-brac où l'on va pouvoir flâner, chiner des objets du quotidien, de la vaisselle, des meubles, des vêtements, des livres, mais aussi de l'électroménager ou des matériaux, vraiment de tout, pas toujours de la première fraîcheur, mais à très très petit prix.
Mais qu'est-ce qui différencie une recyclerie d'un magasin d'occasion, d'une friperie ou d'une brocante ?
En fait, une recyclerie accepte tout ce qu'on lui donne, car sa mission, c'est de revaloriser et donc limiter au maximum les déchets. Elle trie, nettoie, répare, teste les objets pour les proposer à la vente et éviter qu'ils finissent dans les zones d'enfouissement ou les incinérateurs. On estime qu'une recyclerie récupère en moyenne 50 tonnes d'objets par an qui auraient directement fini à la benne.
Ces lieux servent un peu en fait de relais aux politiques publiques de réduction des déchets, Carlotta.
Tout à fait. C'est à ce titre qu'elles sont subventionnées et soutenues par les mairies, l'État, les régions. L'Auvergne-Rhône-Alpes propose une aide à l'installation de 40 000 euros et une aide à l'investissement pouvant aller jusqu'à 300 000 euros par projet, parce que leur mission est aussi de sensibiliser le public en organisant, par exemple, des ateliers de réparation.
Et puis il y a un autre aspect important, Carlotta, c'est que ces recycleries sont pourvoyeuses d'emplois.
Oui, il faut aller voir les arrière-boutiques, les hangars de stockage pour se rendre compte du travail des petites mains. Le tri, le nettoyage, la réparation, ça demande beaucoup de main-d'œuvre et ce sont des emplois qui ne peuvent pas être délocalisés puisqu'on est par essence dans une logique de circuit court. Il y a des petites recycleries qui tournent avec 2 salariés et des bénévoles, mais d'autres, très grandes, qui emploient près de 100 personnes. Et surtout, les recycleries ont aussi une ambition sociale puisqu'elles embauchent principalement des personnes éloignées de l'emploi. Elles sont ce qu'on appelle des chantiers d'insertion. On y trouve des jeunes de moins de 26 ans en difficulté, des bénéficiaires de minima sociaux ou des travailleurs handicapés.
Et quel est le profil des acheteurs ?
C'est ça qui est intéressant, les recycleries sont fréquentées aussi bien par des personnes qui ont peu de moyens, qui subissent les affres de la crise socio-économique, mais aussi par des personnes de classe moyenne, sensibles aux questions environnementales, qui achètent dans les recycleries par esprit d'anticonsumérisme, comme si c'était une forme d'engagement individuel, un acte de résistance ordinaire à la société de surconsommation.
Merci Carlotta Morteo. En Russie, 90% des déchets ménagers étaient déversés en plein air il y a quelques années. Le tri et le recyclage sont encore des initiatives assez marginales, même si les villes s'y mettent très timidement sous l'impulsion de la société civile. Les associations ont pâli jusqu'à présent largement les manquements des élus. À Moscou, l'organisation Sobirator en est un bon exemple. Elle a mis en place un système de tri sélectif très pointu qui fait référence et que nous présente notre correspondant Jean Casset.
C'est un hangar de briques et de préfabriqués, comme il en existe des dizaines dans ce faubourg industriel du sud de Moscou. À l'intérieur, au lieu d'un débarras de pièces détachées ou d'un garage douteux, des dizaines de caisses et de sacs soigneusement alignés et des pancartes. Carton, tétrapack, piles électriques, 6 ou 7 types de plastique différents, c'est le point de collecte de l'organisation Sobirator, pionnier du tri sélectif à Moscou. Ici, l'on vient de toute la capitale russe pour déposer ses déchets recyclables. Mais pas question de tout donner en vrac. Et des membres de Sobirator sont là pour guider ceux qui s'y perdent.
Ici, on met le papier et le carton gaufré. Alors ça, c'est de l'aluminium, ça va là-bas. Les conserves, elles sont en fer, elles vont ici.
Le concept est relativement nouveau dans la capitale russe, où jusqu'à très récemment, aucune initiative de ce genre n'existait, ni associative, ni du côté des pouvoirs publics. Mais ces dernières années, plusieurs scandales liés à la gestion des déchets stockés dans des décharges à ciel ouvert dans la province ont éveillé les consciences. Et l'impulsion est venue de la société civile. En 2018, des militants associatifs créent Sobirator, une entreprise à mission qui collecte des déchets recyclables et fait la promotion d'un mode de vie zéro déchet. Daria Starova est employée de Sobirator. Elle nous explique les différents aspects de leur activité.
Notre activité est double. Nous récoltons des déchets recyclables et nous éduquons la population à l'écologie. Nous gagnons de l'argent avec des services aux entreprises en les aidant à rendre leurs bureaux, leurs immeubles plus écologiques. Et nous organisons des séminaires ou des interventions dans les écoles.
Avec 860 tonnes de déchets récoltés en 2020, en forte croissance par rapport à 2019, Sobirator a rapidement rencontré le succès et fait des émules. Il existe maintenant plusieurs initiatives de ce type à Moscou. Surtout, poussée par la demande des activistes écologistes, la mairie a enfin mis en place en 2019 un système municipal de tri sélectif. Mais les moscovites les plus engagés continuent de faire confiance de préférence à Sobirator et à son tri extrêmement pointu. Témoins Olesia et Alexei, deux trentenaires, qui sont venus assister à une visite guidée dans l'espace de collecte.
C'est la première fois que nous venons. Ça fait quelque temps qu'on donnait nos bouteilles au tri sélectif et on voulait passer à la vitesse supérieure. On est venu voir ce qu'ils prennent ici. Sobirator, c'est l'une des plus grandes organisations. Ils collectent plus de 100 types de déchets différents. Et maintenant, on va aménager un espace chez nous pour trier nos déchets.
Sobirator prévoit d'ouvrir prochainement sa première branche hors de Moscou, dans la ville de Krasnodar, au sud de la Russie. Il y a encore du travail pour faire triompher en Russie ces idées zéro déchet. À l'heure actuelle, seuls 7% des déchets russes sont recyclés. Le gouvernement s'est fixé comme objectif d'arriver à 50% d'ici 2030.
À Amsterdam, deux musées mettent en ce moment les Pays-Bas face à leur passé colonial et interpellent la population sur le sujet. Avec l'exposition Slavery, le Rijksmuseum met en scène des histoires vraies de protagonistes et de victimes de l'esclavage. Le musée d'Amsterdam, lui, dirige les projecteurs sur le Rodenkoetz, le carrosse royal. La peinture à la gloire des colonies, qui figure sur l'un des panneaux de ce carrosse, fait débat depuis des années. Explications et visites guidées avec notre correspondante Anne Leray.
We start with the monarchy, with the royal family, and the way their presence was
superbement rénové, trônant dans une vitrine au centre de la cour du musée d'Amsterdam, le Rodenkoetz, 2500 kg de bois et de verre, paré de soie et de feuilles d'or, refait son apparition après 5 ans d'absence. 6 salles à la scénographie soignée déroulent sa trajectoire de sa conception à sa rénovation. Une biographie très documentée de ce cadeau fait à la reine Wilhelmina en 1898 par les habitants d'Amsterdam. Au-delà du geste artisanal qui en fait un splendide ouvrage, au-delà des anecdotes qui jalonnent son parcours, le Rodenkoetz, 123 ans, est un objet de controverse depuis sa création. Mis en service 38 ans après l'abolition de l'esclavage aux Pays-Bas, il symbolise la monarchie et le rôle actif du pays dans l'histoire coloniale. Au cœur des débats, la fresque allégorique qui orne son flanc gauche met en scène des esclaves des Caraïbes et des Indes orientales soumis à la suprématie néerlandaise. Une peinture dont des députés de la gauche radicale et du parti écologiste avaient demandé le retrait en 2011 et qui génère des pétitions et des manifestations depuis 10 ans.
So in a sense, this was a, for the Dutch, this was a way to get acquainted with the colonies.
À l'heure où les villes d'Amsterdam et de Rotterdam poussent les Pays-Bas à reconnaître leur responsabilité dans l'esclavage, voire à formuler des excuses, un carrosse officiel qui arbore ce genre de représentation fait forcément des vagues. En restituant son histoire, en faisant coexister des points de vue divergents, en associant des regards d'artistes, cette exposition critique entend immerger les visiteurs dans le débat. Selon l'historienne et conservatrice Anne-Marie De Wild, les musées sont des lieux adéquats pour ouvrir le dialogue autour de sujets clivants.
Dans cette exposition, nous invitons les visiteurs à partager leur point de vue sur ce que l'on peut faire de ce genre d'héritage contesté. Nous voyons ce carrosse et son imagerie comme le reflet de l'attitude coloniale de la fin du XIXe siècle. Que doit-on faire aujourd'hui aux Pays-Bas ? C'est un débat politique, mais nous pensons que les musées aussi peuvent être des endroits pour aborder ce type de questions de façon apaisée. Nous avons des histoires à raconter, nous invitons les gens à les écouter, mais nous les invitons aussi à partager leurs propres histoires. Et je pense que cette exposition et cette mise en contexte aident le débat à avoir lieu.
D'un côté, le roi Willem Alexander, qui a voulu conserver cette peinture à l'identique, et de l'autre, des associations anti-racisme qui demandent que le carrosse doré, mis à l'arrêt en 2015 par sa restauration, ne soit plus utilisé. L'institution muséale prend le relais en posant ouvertement la question : doit-il continuer à transporter le roi et la reine lors des cérémonies officielles comme la rentrée parlementaire de septembre, ou devenir une pièce de musée ? Chacun est ici invité à donner son opinion.
L'avenir de cet objet iconique est l'un des enjeux les plus importants de cette exposition. J'en suis l'une des commissaires et la préparation de ce travail de mémoire a été passionnant pour moi. Dans cette exposition, il ne s'agit pas seulement de raconter l'histoire du carrosse, elle sera peut-être décisive quant à ce qu'il va advenir.
Le roi devra trancher au terme de l'exposition en février 2022. Après 8 mois sous vitrine et ce nouveau coup de projecteur sur les dissensions qu'il suscite, il sera sans doute difficile au Rodenkoetz de reprendre la route. Placé dans un musée, il deviendrait alors le témoignage d'une page sensible de l'histoire néerlandaise plutôt que de continuer à la véhiculer dans les rues.
À la réalisation d'Accent d'Europe aujourd'hui, Ludivine Amado. Retrouvez l'émission sur la page podcast du site RFI et sur vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt.